Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, le cinéma ne va pas très bien, mais entendons-nous, hein, celui qui se voit dans les salles, on en parlera plus longuement sous peu. Mais avant cela, nous avons une émission à faire avec aujourd'hui des chroniqueurs en mode confinement, donc pas de plateau, mais 5 films et une interview. Ça sera celle de Gilles Perret, le documentariste qu'on a beaucoup vu avec François Ruffin, C'est à la fiction, et on l'a rencontré. Les films, nous parlerons donc de Reprise en main de Gilles Perret, Le mauvais esprit d'Halloween sur Netflix et puis pourquoi pas Halloween Ends en salle. Donc ce sera eh bien un gros plan sur les films d'Halloween. Nous parlerons aussi de Alléluia, les mots de Leonard Cohen et de Ashura qui est disponible en vidéo. Mais on va commencer avec le 4e long métrage du fiston Garel, Louis Garel, avec L'innocent.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
T'es sorti quand déjà de prison?
Il y a une semaine.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie?
Bah, je vais faire un peu d'intérim.
Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là?
Oh putain.
Quoi?
Mais il est canon.
Abel est le fils blessé de Sylvie, une actrice sexagénaire fantasque qui tombe souvent amoureuse des hommes qu'elle rencontre en prison où elle donne des cours de théâtre. Abel, lui, ne croit plus en l'amour, sa femme est décédée et c'est aux côtés de Clémence, sa seule amie, qu'il tente de se reconstruire malgré tout. Lorsque sa femme lui présente Michel, un ancien malfrat qu'elle vient d'épouser et avec qui ils vont ouvrir un magasin de fleurs, Abel décide de l'espionner pour s'assurer que Michel ne va pas retourner dans ses anciennes combines et ce qu'il va découvrir ne va pas vraiment lui plaire.
Sylvie!
Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres.
Je suis ta mère quand même!
Je m'en fous, t'es complètement folle!
Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone?
Du caviar.
3000 euros le kilo?
Ah, si tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille!
Mais quelle réussite! Alors, première très bonne nouvelle, la bande-annonce ne dévoile pas tout le film, tout en restant fidèle à son esprit néanmoins, et c'est notamment la complexité des personnages qu'elle préserve que l'on se fait ensuite un plaisir de découvrir pendant 1h40. La croisade, sorte de chronique familiale autour de la prise de conscience écolo d'un couple de bobos parisiens, était un essai précédent prometteur hein, pour Louis Garel, mais également une comédie assez bancale. L'innocent, en revanche, est un succès en tout point. Garel ose aller plus loin dans l'humour, dans l'amour, en se frottant au burlesque, au film policier, le tout filmé comme à son habitude en pellicule. L'écriture est totalement maîtrisée. Cela tient quasiment du miracle de réussir à éviter à ce point les poncifs, les situations déjà vues et à livrer un film qui soit aussi enthousiasmant, aussi rafraîchissant, sans être pour autant naïf, car à 39 ans et au bout de 4 films, Louis Garel semble avoir enfin trouvé son style, une certaine maturité dans son cinéma qui va de pair avec une sensibilité exacerbée.
Je comprends pas, c'est chez qui ici?
Mais c'est chez nous!
On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure.
Quoi?
Ce type est dangereux, il me ment depuis le début.
Arrête.
Quoi.
Regarde comme elle est heureuse! Regarde!
Et c'est que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais.
Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi?
Sérieux?
Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes, on fera 10-15 de plus.
Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est nous.
Je veux draguer le chauffeur.
Si tu restes assis.
Je veux draguer le chauffeur.
Non. Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion, là. Non. Emma, tu écoutes ce que t'as dit, Michel?
Laisse-moi faire les choses, putain.
T'as fait un truc que jamais, jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel.
Il était sans doute temps pour l'acteur-réalisateur de parler dans ses films de sa propre vie. Dans L'Innocent, il s'inspire de sa mère, la comédienne et metteuse en scène engagée Brigitte Sy, qui s'est elle aussi mariée avec un détenu en prison et qui aimait, selon les dires de son fils, flirter avec les limites. De cette inspiration autobiographique naît un duo de cinéma intensément lumineux et touchant, celui que forme Garrel à l'écran avec Anouk Grimberg, vu récemment dans La Nuit du 12, et son phrasé si particulier. Anouk Grimberg qui compose un personnage toujours excessif mais jamais ridicule, tout comme le reste du casting qui est un sans faute absolu, rarement une distribution là autant porter un film avec des comédiens qui montrent l'étendue de leur registre et de leur talent grâce à des rôles particulièrement bien écrits et bien pensés. Roche Dizem et Michel, le gangster attachant mais imprévisible, et Noémie Merlant, croisée dans Portrait de la jeune fille en feu ou plus récemment dans Les Olympiades de Jacques Audiard, interprète Clémence, un rôle que pourtant n'importe qui aurait rendu agaçant mais dans lequel elle nous bouleverse. L'Innocent est une comédie qui n'a pas peur d'aller vers l'émotion ou encore vers un cinéma un peu plus sombre parfois. Et en cela, il rappelle eh bien, le style d'un certain Pierre Salvadori, ce qui est quand même un sacré compliment.
Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, non ?
Ouais, s'il te plaît.
Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que j'allais te dire.
T'aimes pas le pantalon ?
L'Innocent de Louis Garrel est en salle depuis le 12 octobre. Un groupe d'amis utilise les armes de la finance pour reprendre une usine promise à être vendue à des requins. C'est Reprise en main de Gilles Perret que l'on va entendre dans cette émission.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Passer du documentaire à la fiction n'est jamais une entreprise facile. Depardon ne l'a jamais fait, comme beaucoup d'autres. Mais Gilles Perret, que l'on connaît pour ses collaborations avec François Ruffin, pour Je veux du soleil ou Debout les femmes, mais qui a aussi œuvré tout seul hein, pour La sociale ou l'excellent Mémoire d'ouvrier, eh bien Gilles Perret a donc franchi le pas pour Reprise en main, une douce comédie prolétaire qui nous raconte comment un groupe d'hommes va eh bien, reprendre une usine dont l'un est l'employé en utilisant les moyens de la finance. Une belle idée. Alors on a l'habitude de voir des ouvriers qui créent des coopératives ou des scopes, mais là, il s'agit de faire mieux et aussi vite que les rapaces qui sont prêts à acheter une usine pour la revendre dardard en se faisant des pépettes. Alors nous sommes en Savoie, dans une usine de décolletage. C'est une technique d'usinage consistant à donner une forme précise à une pièce par enlèvement de matière. Alors l'idée ici, tout autant de montrer un univers ouvrier, de montrer un savoir-faire français en la matière. On apprend d'ailleurs que l'entreprise travaille pour BMW, donc un grand constructeur automobile. Gage de qualité. Gilles Perret insiste sur un personnage, c'est celui de Cédric, interprété par Pierre Deladonchamp. Il a un équilibre entre l'usine où il travaille, où il fait du bon travail, hein, une famille, et puis un besoin d'aller escalader les falaises. Il a deux amis de lycée, un ingénieur qui fabrique des machines à usiner, et puis un banquier. Et puis dans cette entreprise qui est en vente, il y a aussi eh bien, une autre fille du lycée qui est la directrice financière. Et le patron, eh bien, lui qui n'a qu'une envie, c'est de vendre au prix fort, tellement il est pressé par l'actionnaire à Londres. Mais le film fait intervenir un joker. Sur une paroi rocheuse, Cédric sauve la mise à un jeune homme en mauvaise posture. C'est un as de la finance qui sait parfaitement combiner un montage financier pour reprendre une entreprise. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une reprise en main, c'est le titre, de l'outil de travail. Manque l'argent, un peu de chance et de l'audace. Gilles Perret l'avoue lui-même, hein, il n'est pas un cinéphile et connaît peu le cinéma. S'il a réalisé des documentaires, la fiction est un autre domaine. Le scénario coécrit avec Marion Richoux a été élaboré durant de longues années. Alors de ce côté-là, c'est réussi, hein, mais c'est davantage dans la mise en scène que Gilles Perret est en panne d'inspiration. Mais le sujet prime sur la beauté du geste cinématographique, en tout cas. Et ce que nous raconte le film n'est pas à prendre à la légère. Hein. C'est un peu toujours la même histoire. Il nous raconte comment le monde financier, avec ses objets, ses courbes et ses dividendes, eh bien, veut régner en maître. Le film de Gilles Perret montre comment, en s'unissant, riche et modeste, hein, peu importe, on peut changer le monde et la manière de le gouverner. Le réalisateur, qu'on pourrait qualifier d'engagé, hein, a eu besoin de la fiction pour cela. Alors, il est certain que c'est moins stimulant qu'un Ken Loach, que la comédie est un peu timide, mais le film a des visées modestes et louables. Alors, on passe tout de même un bon moment avec des hommes qui, faute d'avoir tous les moyens, cherchent aussi à conserver le bon sens. On va écouter maintenant eh bien, Gilles Perret nous parlait donc de son premier film de fiction, Reprise en main.
Il faudra bien qu'il se décide à la changer, cette putain de machine.
Ils vont vendre, Cédric.
Ce serait un fonds de pension anglais ou américain.
Apollo est prêt à signer.
pour 60 millions.
C'est super.
Je vous ai surtout découvert forcément avec les documentaires, et là, vous faites un passage à la fiction. Alors, pourquoi ce passage à la fiction? Est-ce que c'est parce que ça vous laisse plus de liberté sur un sujet que le documentaire contraint?
Il y a deux choses. Déjà, c'est vrai que de passer à la fiction, ça nous permet d'avoir effectivement non seulement de la liberté, mais aussi de proposer des solutions, notamment de reprise en main, des solutions qui n'existent pas. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a qu'en fiction qu'on peut le faire. Et puis aussi, c'est que ce sujet-là de l'impact des fonds d'investissement et de la finance sur l'industrie, c'est un sujet que j'avais traité en documentaire il y a longtemps, mais je voulais refaire quelque chose de plus abouti, en tout cas aller plus loin dans la finance. Et en fait, on allait traiter là de deux mondes qui sont assez secrets. Le monde de la finance qui est secret, ben parce qu'ils n'ont pas trop intérêt à dire ce qu'ils font, et c'est pas toujours très glorieux. Et puis le monde de l'industrie du décolletage, cette industrie spécifique de mécanique de précision qui se fait dans la vallée de l'Arve, qui est un milieu aussi secret, parce qu'en fait 70% de cette activité se fait dans la vallée, et donc les concurrents, ils sont pas à Montpellier, à Brest ou Toulouse ou Paris, ils sont vraiment à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, et donc du coup c'est culturellement très secret. Donc en fait, ça aurait été dur de traiter de cette question-là. Donc là, c'était l'occasion justement de dire, puisque c'est compliqué, on va raconter cette histoire, mais on va mettre les propos dans la bouche des acteurs, et des propos qui auraient pu être gênants dans un documentaire, ou en tout cas qui auraient pu les mettre en porte-à-faux. Là, on met ça dans une fiction et on raconte l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc là, c'était un côté facile, en fait, par rapport au documentaire.
Il y a quand même eu des difficultés à faire cette fiction par rapport au sujet ou...
Non, en fait, la bonne surprise, c'est que dès qu'on a proposé cette idée, en gros, de dire que une bande de potes se réappropriait les outils de la finance et allait les retourner contre elle, tout de suite, l'idée a paru séduisante, parce qu'en fait... On a déjà vu des films sur des reprises de boîtes par les salariés, on a déjà vu des histoires sociales qui en général se finissent mal. Et là, on propose une histoire justement originale d'utiliser et retourner l'arme de la finance contre elle-même, et en même temps raconter une histoire sociale qui se finit bien. Donc du coup, on a eu un parcours finalement dans la production et, qui a été quasiment sans obstacle. Voilà, ça a été une super belle histoire du début jusqu'à la fin.
Apollo, c'est les pires, non?
Et toi, ça te fait rien de te faire du fric sur la vie des ouvriers?
Non mais attends...
Tu as choisi ton camp, toi, hein? Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement.
Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche.
Merde! Le projet Verti prend l'eau.
Ah bah, il est en forme, le conseil d'administration.
Ce qui est intéressant aussi dans votre film, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme au sens où on ne verrait pas les financiers qui seraient complètement désintéressés de ce qui peut se passer humainement. Effectivement, il y a l'effet de groupe et on a beau avoir tout un tas d'énergie, si on ne trouve pas au bout d'un moment les gens qui ont l'argent, c'est impossible. Et ça, vous le montrez très bien.
L'histoire raconte ça. Déjà, l'histoire raconte que effectivement, c'est quand même ce groupe de copains. Et c'est vrai que, on va dire, la limite de notre exercice dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver la somme minimum pour pouvoir lancer l'opération, et que ça se fait parce qu'ils connaissent une héritière et parce qu'il faut quand même juste la séquestrer dans un sous-sol de salle des fêtes, et que finalement, on y arrive. Mais à Montpellier, vous en avez des héritières et des sous-sols de salle des fêtes. Donc il faut y aller.
Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions.
5 millions.
À bientôt.
Tout à fait.
Bientôt,
merci. Bon,
au revoir.
Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi?
Le frisson.
Vous disiez que vous montriez justement un tissu industriel fort. J'ai l'impression aussi que c'est un film sur la transmission, parce qu'en filigrane, il y a le père et le fils qui sont là, et ça se termine quasiment sur justement cette espèce de moment d'émotion qui les relie. Et avec, j'ai l'impression qu'ils ont au départ, vous, quand on les voit la première fois, on a l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes armes. C'est-à-dire que le père syndicaliste, on a l'impression qu'il veut la force et tout ça,
et vous donner une autre orientation finalement à son fils, au personnage de Cédric.
On a clairement fait ce choix-là parce qu'effectivement déjà dans un premier temps par rapport à ce que vous dites, c'est un film qui parle de la transmission et qui parle de la fierté aussi. La fierté de ce qu'on est, de ce qu'on produit, la fierté de gens qui font un beau métier et qui n'ont pas envie de laisser tout partir et donc qui ont envie de transmettre ça à leurs enfants et de montrer ce qu'ils sont capables de faire alors que ce qu'ils entendent autour d'eux, c'est que c'est pourri, c'est pas bien, etc. Donc effectivement, il y a une question de transmission et on a vraiment fait le choix avec Marion de passer par un personnage qui, effectivement, au début du film, réfute les idées syndicales et les idées politiques de son père parce que Cédric, le personnage principal, il est aussi le fruit de ce qu'on lui a raconté depuis 30 ans en disant que les syndicats, c'est vieillot, la politique, c'est pourri, les machins, et lui, il ne veut plus entendre parler de ça et on n'a pas de mal à imaginer que son père l'a saoulé aussi avec ça. De fait, par son courage et par son côté malin et par son expertise, on va dire, il va mettre en application les théories de son père, c'est-à-dire que finalement, il se réapproprie l'outil de travail.
C'est un moyen aussi de montrer qu'il y a un autre rapport de force envisageable dans la société telle qu'on la connaît.
Ah ben c'est sûr. Et puis c'est aussi de montrer qu'il y a d'autres moyens de lutte possibles et qu'on peut aussi s'approprier les armes de l'adversaire pour essayer de trouver une solution plus collective et plus prometteuse d'avenir.
Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Ah.
C'était Gilles Perret, le réalisateur de Reprise en main. C'est son premier long métrage après avoir réalisé de nombreux documentaires et c'est en salle depuis le 19 octobre. Un père et sa fille adolescente unissent leurs forces pour sauver leur ville après qu'un esprit ancien et maléfique a donné vie aux décorations d'Halloween. Semant le chaos, c'est le mauvais esprit d'Halloween et c'est sur Netflix, on en parle maintenant.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis, et même saloperie.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Il était une fois un homme méchant qui s'appelait Jack le Pingre. Et il était tellement débile que les villageois ont craqué et ont décidé de le...
La saison des films d'Halloween bat son plein et, passé la moitié du mois, entre un nouvel Hellraiser qui n'a rien de transgressif, un Hocus Pocus 2 déjà chroniqué ici et qui a perdu sa magie en route, et un Halloween's End qui avait des pistes intéressantes pour un mélo sur la résilience mais qui n'a quasiment rien à voir avec l'histoire, les thèmes et la mythologie de son croque-mitaine, on se dit que la récolte des citrouilles post-Covid fait un peu la gueule. Ben oui, à la fête des morts, c'est quand même synonyme de frissons, de fun et d'un peu d'inventivité, et non pas d'encéphalogramme plat. The Curse of Bridge Hollow, ou chez nous, le mauvais les esprits d'Halloween, lui, s'inscrit dans le registre des films familiaux d'Halloween qui déserte petit à petit le grand écran pour trouver un second souffle sur les plateformes. Alors à la manière des films de Noël, hein, on remarque qu'il y a les mêmes thématiques, les mêmes mouvements de caméra, bref, la même manière d'emballer ses divertissements. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément désagréable, mais il faut se rappeler qu'on est plus du côté de Hubby Halloween, hein, le film d'Halloween d'Adam Sandler de l'année dernière, déjà sur Netflix, voire du très sympathique Cheur de Poule de Rob Letterman plutôt que de L'Exorciste ou de The Lord of Salem. Le mauvais esprit d'Halloween ne se foule pas trop et reprend d'ailleurs grosso modo une bonne partie de l'intrigue de Cheur de Poule 2, lui bien moins intéressant que Cheur de Poule premier du nom, où les décorations de supermarchés en forme de sorcières et autres objets décoratifs inanimés s'éveillaient sous l'influence d'un sort pour attaquer nos héros.
Mais le diable a eu pitié de Jack et lui a offert une lanterne. Tant que cette vieille lanterne restera éteinte, alors vos enfants n'auront rien à craindre.
Et qu'est-ce qui se passerait si on l'avait rallumée ?
Alors vous êtes foutus. Aux 12 coups de minuit, Jack pourrait rester dans notre monde pour toujours.
Le mauvais esprit d'Halloween suit une famille afro-américaine venant de Brooklyn qui s'installe dans une toute petite ville rurale qui a l'air aussi naturelle et charmante qu'ennuyeuse en dehors de ses périodes de fête. Cette ville, nommée 10 fois de suite plus petite ville la plus sûre du monde, s'apprête à fêter Halloween de manière massive comme chaque année. Pour Sydney, la jeune ado de la famille, se retrouve ici, bah c'est la mort. Hein, l'ambiance de la grande ville lui manque et en plus, elle est en conflit avec son père Howard, joué par Marlon Wayans. Ce dernier, professeur de sciences, aimerait que sa fille marche sur ses traces et qu'elle arrête de rêvasser. Manque de peau, en aménageant dans la maison de Madame Hawthorne, une puissante médium locale, c'est l'inverse total qui va se passer. C'est donc là que la jeune fille va réveiller l'esprit d'Halloween, c'est-à-dire celui de Jack le Pingre, et qu'il va prendre possession des décorations et s'en servir pour constituer une armée qui va grandir de minute en minute, jusqu'à menacer la ville dans son intégralité. Alors, après les mauvais et risibles qui cassent deux, Action ou Vérité ou encore Nightmare Island, Jeff Swadow ne va pas réinventer la roue, ni l'eau chaude, mais rappelle ici là et pourquoi on avait, il y a désormais presque 20 ans de ça, posé quelques espoirs en lui avec son premier film, le slasher Cry Wolf, qui réactualisait de manière efficace l'histoire du petit garçon qui criait au loup version urban légende. Il sert ici de tampon à Marlon Wayans qui, depuis les Scary Movie ou autres Ghost Bastard de sinistre mémoire, car oui, hein, c'est un jeu de mots que le distributeur français avait fait avec Ghostbusters. Bon, bref. Jeff Swadow donc se charge de diriger Marlon Wayans dans un registre horrifique, comique, mais cette fois-ci un poil plus sérieux et familial. Donc on appréciera les clins d'œil disséminés ici et là, dont une séquence qui se passe au 666 Elm Street, ou encore lors d'une attaque de clowns armés de haches, qui ressemble à s'y méprendre au classique 80s des frères Chiodo, les clowns tueurs venus d'ailleurs. Bon, pour un après-midi avec des pré-ados, c'est un spectacle idéal, ni effrayant, ni trop lénifiant. On regrettera simplement la morale douteuse du film qui enferme des personnages afro-américains dans le cliché des afro-américains issus de Brooklyn qui doivent forcément avoir une prédisposition pour la violence. Donc ce qui réunit in fine le père et sa fille n'est pas la raison ni la science, mais de frapper le plus salement possible des monstres vu que, je cite, « on peut enlever ma fille de Brooklyn, mais on ne peut pas enlever Brooklyn d'elle ». Donc voilà, quand on parle de mauvais esprit, c'est en fait peut-être de celui-là dont il était question.
Le mauvais esprit d'Halloween est sur Netflix depuis le 14 octobre. On retrouvera un autre film traitant d'Halloween un peu plus tard. Mais avant, archives rares et témoignages importants forment le documentaire sur Leonard Cohen. Alléluia.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non ?
Leonard Cohen, c'est une voix singulière devant le micro, mais en off également. C'est l'un des plus grands compositeurs poètes du XXIe siècle et pourtant, comme on l'apprend ici, à ses débuts, il ne savait ni chanter ni même jouer de la guitare. Ce documentaire retrace une vie longue de 79 ans, depuis sa naissance dans une famille aisée de Montréal jusqu'à sa mort paisible, avec entre les deux une vie entière vouée à la recherche de la spiritualité au travers de la musique, une vie liée à l'écriture, toujours inspiré par la religion, le judaïsme plus précisément, une vie à la rencontre du sacré qu'il a vécu comme une longue prière. En filigrane du documentaire où interviennent des journalistes, des musiciens, des chanteuses, il est principalement en question, et c'est ce qui donne le titre au film, de l'écriture de Alléluia, la plus célèbre chanson de Leonard Cohen, que au comble de l'ironie, on attribue souvent davantage à Jeff Buckley, qui a eu en plus la bonne idée de mourir jeune, donnant à sa reprise de Alléluia une dimension d'autant plus mythique et mystique. Le seul souci concernant ce documentaire, qui est très complet, c'est malheureusement que les intervenants ne sont pas très sympathiques et que le rythme est assez lent. Peut-être qu'il aurait gagné à être un petit peu plus ramassé. Pas évident de garder notre attention pendant plus de 2 heures, surtout avec la voix grave de Leonard Cohen qui a tendance un petit peu à nous bercer.
Really on a quest to find his spiritual path.
Alléluia, les mots de Leonard Cohen est en salle depuis le 19 octobre. 4 ans après les événements d'Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires. Le reste, vous allez en savoir un peu plus en écoutant Manu nous parler d'Halloween Ends.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Ça fait 4 ans que Michael Myers a disparu sans laisser de traces.
En dépit d'un certain nombre de défauts, en l'occurrence des dialogues explicatifs assez risibles et des personnages guerfouillés, Halloween Kills, sorti l'an dernier à la même période, demeure à mon humble avis le meilleur film de la saga depuis le 4. Déjà pour 2 raisons. Premièrement, sa mise en scène, très années 70, tonique et chaotique, ravive une figure de style que j'adore, le zoom, employé d'une manière ultra agressive comme un uppercut dans le bide. Deuxièmement, le scénario, totalement bancal mais passionnant sur le plan thématique, lorgne énormément du côté du cinéma de Fritz Lang. Le mal en miroir par le lynchage. Et pourtant, c'était mal engagé après un premier épisode de la franchise totalement raté. C'est donc avec un mélange de crainte et d'excitation que j'attendais ce nouvel opus qui boucle donc la trilogie. Le film débute logiquement là où il s'était terminé, non, en fait pas vraiment en réalité, quelques années plus tard en fait. 4 ans après les événements tragiques ayant eu lieu le soir d'Halloween, Laurie, toujours présente, vit désormais avec sa petite fille Allison après la mort de sa fille. Elle tente d'exorciser ses démons en écrivant ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces dernières années. Laurie a décidé de tourner la page, de tenter de vivre après avoir laissé l'ombre du Boogeyman planer sur son existence pendant des décennies. Mais sa présence plane comme une malédiction. Auparavant, un jeune homme, Corey, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, suite à un bête accident, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait. Libéré de prison, il est devenu la risée de la région, subissant les humiliations de ses petits camarades. Une colère sourde émane de ce jeune garçon inoffensif qui va évidemment croiser la route de Michael Myers un jour, libérant, si l'on peut dire, au moins métaphoriquement, les forces du mal.
J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait.
Tu fais semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort.
Disons-le tout de suite, la première heure est magistrale, alors qu'il ne se passe pratiquement rien, délesté après le prologue du moindre meurtre. Mais David Gordon Green parvient, par sa seule mise en scène, à créer une ambiance poisseuse et pesante, où le mal semble s'infiltrer dans chaque ruelle, maison, lieu public. Les personnages parviennent à exister à l'écran, principalement Corey, souffre douleur injustement méprisée, sorte de martyr qui n'avait rien pour être mauvais, mais qui va s'engouffrer dans une spirale de la violence, libérant toute la couleur justifiée au fond qu'il a accumulée au cours des années. Pourtant, la petite fille de Laurie voit en lui un homme bon et aimant. Les relations entre les personnages, bien mieux définies que dans les deux précédents films, sont tendues et ambiguës. Elles reflètent le mal-être d'une ville qui n'arrive pas à dépasser la tragédie qui poursuit chaque habitant. En ce sens, l'introduction est terrible, comme si l'accident était dans l'ordre des choses, une fatalité, telle la pièce d'un puzzle organisé par les ténèbres. Alors la photographie, tout en contraste, hein, quasi naturaliste la journée et dans des tons lugubres la nuit, reflète l'état d'esprit qui règne dans l'espace mental de chacun. L'idée abstraite de la circulation du mal, comme un virus impossible à stopper, rapproche parfois, alors toute proportion gardée bien sûr, hein, le film du Crushing de William Friedkin. Mais hélas, voilà, c'est toujours dommage, passé une heure, le film revient sur des rails beaucoup plus conventionnels, celui du slasher basique avec le réveil de Michael Myers, n'exploitant jamais la bonne idée de cette improbable réunion des deux tueurs qui aurait pu nouer une forme de complicité pulsionnelle. Les meurtres s'enchaînent sans invention, mais surtout avec un manque de cohérence flagrant, alternant pour de mystérieuses raisons les hors-champs là où l'on souhaiterait en voir davantage et une monstration complaisante là où des coupes auraient été judicieuses. David Gordon Green, qui rappelons-le, vient du cinéma indépendant, ne s'intéresse pas tellement à l'action proprement dite, bâclant presque consciemment le climax final censé être grandiose. Résultat, Halloween pourrait, alors si on est de bonne humeur, une semi-réussite, ou si on est plutôt négatif, ce serait un semi-échec d'une ambition qui est réelle mais qui laisse un fort sentiment de gâchis faute de ne pas choisir une direction à prendre.
Halloween Ends est en salle depuis le 12 octobre. Quatre gosses jouent à se faire peur et se rendent dans une demeure condamnée, réputée maudite. Mon Dieu, que va-t-il se passer? On va le savoir tout de suite, c'est Ashura.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Dans la mouvance de toute une nouvelle génération qui s'est lancée dans le cinéma sans forcément passer par les chemins officiels ou, tout du moins, un financement ou même un suivi canonique, Talal Salami est le dernier exemple d'une petite liste assez méritante qui croit un cinéma fantastique et d'horreur pure et produit sans concession. Alors après Romain Basset, hein, il est envoûtant Horsehead, Léo Carman et l'émouvant La dernière vie de Simon, Baptiste Audrapeau et le magnifique Mess Bass ou encore Mathieu Turi et l'étouffant Méandre, voici donc débarquer Ashura, La nuit des enfants, dont le tournage est terminé il y a quelques années, mais dont le résultat final a été retenu jusqu'à aujourd'hui à cause des errances de la société responsable des effets spéciaux et d'une bataille juridique sur les droits du film avec les coproducteurs français après la faillite de leur boîte. Donc comme quoi le Development L, ben, ce n'est pas réservé qu'aux gros films de studio. Bon, il sort quand même quelque part à l'heure, celle d'Halloween, le moment idéal pour une histoire de cette trempe. Car après l'intéressant mais très perfectible Mirage en 2013, c'est un deuxième long métrage qui, lui, a la lourde tâche de rendre hommage à tout un pan du cinéma horrifique des années 80, de John Carpenter à Wes Craven, avec un budget que l'on imagine rikiki. Ashura s'est coché la plupart des cases au bon moment et n'a pas à rougir des emprunts qu'il fait à une ribambelle de films que l'amateur aura vite fait d'identifier mais souffre d'un rythme lent qui peine à maintenir l'attention à cause de ce manque de surprise. Alors le jeu d'acteur, souvent aléatoire dans ce genre de production, est aussi un problème qui peut amener au décrochage, tant il se retrouve généralisé ici. Il faut dire qu'il est compliqué de confier des rôles importants à des enfants dans une petite production, même s'ils sont bien évidemment indispensables lorsque le modèle avéré de l'histoire s'avère être Stephen King et que les agissements des personnages doivent beaucoup à ceux du Club des Losers de Ça, où il est revenu, pour citer le titre français de la première adaptation du Pavé du Maître. Alors, la belle musique symphonique de Romain Paillot, qui a été enregistrée à Budapest, impressionne, mais détonne peut-être un petit peu trop par rapport à ce que l'on a à l'écran. C'est tellement fort et riche que cela souligne surtout la modestie visuelle d'un film qui, comme Mirage, ne délivre pas forcément tout ce qui était promis aux yeux. Mais malgré ses réserves, Ashura sait faire plaisir et honore son contrat d'honnête série B Made in 80s. Alors, peut-être pas celle visée, mais celle qui se louait néanmoins tout autant dans les vidéoclubs.
Ashura est disponible en VOD.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, on aura encore beaucoup de films, notamment Le Jour de la Bête, L'Ours, L'École du Bien et du Mal, Millennium Mambo. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelques ressorties. À la semaine prochaine.